Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Au programme ce week-end, comment recruter, former et garder ses talents dans un secteur bouleversé par la crise. On va parler de Sodexo. On sera avec la DRH Majda Vincent. Discussion et bonnes pratiques, vous allez voir. Comparé à il y a une quinzaine d'années, se faire virer à 45 ans, ça n'est plus un échec. C'est même devenu presque factuel. C'est ce que nous dit Benoît Durand-Tisnes, un spécialiste de la transition, mais aussi un auteur. Quand on change d'employeur et qu'on a plus que 45 ans, comment rebondir? Écoutez-nous les bons conseils à suivre. Et puis pour conclure, on parlera du recrutement des profils tech, commerciaux, développeurs. Tous les profils tech sont surchassés. Alors comment les recruter et les garder quand on n'est pas une licorne? C'est Caroline Payou, qui est la cofondatrice d'Ignition Programme, qui viendra nous donner ses bons conseils.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
Et pour démarrer cette émission, on va parler au DRH, avec les DRH, pour le DRH. Et notre DRH de la semaine, c'est Majda Vincent. Bonjour Majda.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la DRH de Sodexo France. Avec vous, on va rentrer dans un secteur, la restauration collective, qui a été bouleversée par la crise. Mais on va aussi parler de quelque chose de commun à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce sont les difficultés de recrutement. Alors déjà, on va préciser que vous êtes en train de préparer un événement qui aura lieu ce week-end, pour ceux qui nous écouteront, de recrutement national. Vous allez vous installer dans plusieurs villes de France.
Tout à fait.
Un événement à dimension nationale pour recruter, c'est ça une de vos solutions pour réussir à pallier
vos problèmes? Une des solutions, effectivement, parce qu'elle ne sera pas la seule. Là, on avait besoin d'aller au contact de nos futurs talents, de leur parler de nos métiers, puisque Sodexo est connu en tant qu'entreprise et on avait envie de leur montrer qui nous sommes en tant qu'employeurs. Et donc, c'est vraiment de leur montrer les coulisses. Et sur ces journées de recrutement qui ont lieu à Paris, le 8 octobre, comme vous l'avez précisé, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Nantes, à Bordeaux, eh bien, nous allons avoir des équipes qui sont là pour montrer leur savoir-faire, leur passion, et de pouvoir transmettre et vraiment montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est au-delà d'un forum recrutement, c'est une rencontre. On va montrer tous nos métiers, puisque Sodexo, c'est plus de 150 métiers. Et donc, nous allons pouvoir montrer cette diversité et surtout faire déguster de bonnes choses aussi, des ateliers coaching, des ateliers CV. Donc, ce sera une journée expérience.
Sodexo, c'est un peu la stratégie de l'armée, là. Vous allez recruter partout en France, un peu comme dans des centres de recrutement. Vous allez sur le terrain, au contact des gens. Quels sont, si je puis dire, les KPI ou les objectifs que vous avez à cocher pour pouvoir dire ces événements recrutement ont été un succès?
Eh bien, déjà, ce sera un succès si l'expérience candidat sera exceptionnelle. De par l'environnement, de par le contact, c'est vraiment ce que l'on recherche. Et pour vous donner quelques KPI, c'est qu'on a fait un premier événement test le 26 mars dernier, seulement sur Paris. Mmh. Et on a eu plus de 650 visiteurs et on a concrétisé par 100 embauches. Et ce qui s'est passé, c'est pas mal, mais ce qui s'est surtout passé, c'est l'après. C'est-à-dire qu'on a été dans la tête des personnes et se sont dit, tiens, Sodexo est un employeur potentiel, je vais postuler. Mmh. Donc, nous avons eu plus de candidatures post-événement du 26 mars. Donc l'objectif, c'est effectivement à l'instant T, mais c'est aussi sur la durabilité.
C'est pas facile, Majda, de résumer ce que c'est Sodexo. Pour le grand public, c'est associé au ticket resto. Pour les salariés comme moi, par exemple, c'est la cantine de midi. Pour d'autres, c'est des équipements ou des services pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sodexo avant la crise et Sodexo en 2022? Qu'est-ce qui a changé?
Eh bien, ce qui a changé, c'est que ça a révélé qui sont nos équipes, des équipes engagées sur site, qui sont fières de leur travail, fières de servir leurs collègues qui viennent se restaurer, fières aussi de servir des soignants, des différentes typologies de profils. Mais nos métiers, ce sont aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'expertise d'aménagement d'espace, c'est dans l'événementiel, c'est la maintenance, et puis bien d'autres métiers. Hein. Sodexo, c'est encore une fois plus de 160, 150 métiers. Et donc, ça a révélé qui nous sommes, qui sont nos équipes et leur fierté au quotidien. quotidien. Donc je dirais que oui, il y a eu des transformations aussi de métiers qui sont apparues et bien entendu que l'entreprise se transforme, les attentes des consommateurs et consommatrices aussi. Et bien nos métiers, typiquement, on est un peu plus dans la vente, on fait du retail, on ne fait pas que du service. Et puis encore une fois, Sodexo, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que la restauration.
Majda, si on zoome néanmoins sur vos services de restauration collective, oui. Est-ce que la DRH que vous êtes peut nous parler des métiers disparus ou sur le point de disparaître et à l'inverse, ceux qui sont en train de naître ou qui seront une partie de vos équipes d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que vous avez déjà une vision?
Alors, je dirais que ce qui nous paraît là, c'est que on se rend bien compte qu'il y a une part de l'automatisation qui va arriver. Donc, on a aussi des outils de traçabilité qui arrivent, de la digitalisation. Donc, on se rend compte qu'il y a effectivement plus de technicité qui va venir être amenée dans ces postes-là. Donc, on a des métiers de vente, ce qu'on n'avait pas vu encore quelques années. Donc, on fait du retail aussi, on fait de la vente. On a des postes de barista, donc ça, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent. Et puis, on peut très bien imaginer demain les postes en plonge qui vont encore plus s'automatiser, qui fait qu'on aura des opérateurs de machines. Mmh. Donc, voilà ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, ce sont que quelques exemples si on regarde tous les autres métiers que l'on a au sein de Sodexo.
Bon, il s'agit d'attirer les gens. Ça, par exemple, votre événement de recrutement national va y participer. Il s'agit aussi de les garder. Un des sujets de la DRH que vous êtes et de ceux avec qui on échange, évidemment, c'est la rétention. Alors parlons un instant, si vous voulez bien, des outils. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques, des choses chez Sodexo que vous avez testées, vous et votre équipe RH, qui vous permettent de fidéliser des gens qui pourraient, tant au niveau management qu'au niveau employé plus bas dans l'échelle, qui pourraient être tentés de partir soit à la concurrence, soit dans la reconversion?
Bien entendu, c'est un challenge aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour nous aussi. Donc, il est important avec humilité de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment, puisqu'effectivement, on doit attirer et on doit à la fois garder nos salariés. Donc oui, on essaye d'être créatif. Donc vous avez parlé d'outils. Eh bien nous, on a essayé d'imaginer ce qui pourrait capter, intéresser. Et donc, on voit vraiment, il y a une variété, une diversité de profils. Il y a ceux qui veulent s'inscrire dans la durée dans l'entreprise, qui veulent évoluer. Vous savez, c'est Sodexo, j'ai rejoint l'entreprise il y a un an et demi et je rencontre des personnes qui ont 30 ans d'ancienneté. Ça, c'est assez exceptionnel. Et en fait, on peut changer de métier en restant dans la même entreprise.
En mobilité.
Voilà, plus de 4000 sites, on peut bouger dans toute la France. Groupe international, on peut aussi aller à l'étranger. Mais au-delà de ça, c'est que dans les métiers, on peut vraiment varier son quotidien. Et donc, typiquement, pour répondre à votre question, ce que l'on essaye de faire en attendant, c'est on a mis en place un parcours qu'on appelle Cuisinons Ensemble. Et c'est quoi? C'est tout simplement pour aider des personnes qui souhaiteraient évoluer à des métiers typiquement de chef de cuisine, premier, de chef de rang, etc. Et bien du coup, on a un parcours de 4-6 mois que l'on a testé. C'est une première promotion que l'on a faite exclusivement féminine puisqu'on avait besoin de féminiser nos équipes. Et donc, l'objectif, c'est derrière de les certifier en interne et puis de les valoriser via des VAE, donc validation des acquis de l'expérience par
donc
la suite.
On se forme, on monte en grade.
Tout à fait.
Et c'est ouvert à toutes.
Et là, la nouvelle promotion, elle est mixte, bien sûr, mais on va vérifier à la parité pour qu'on puisse autant avoir de femmes que d'hommes, pour vraiment veiller à garder la féminisation de ces postes-là. Et puis, on a essayé d'être créatif parce que, encore une fois, je vous dis, les profils sont différents. Il y a ceux qui veulent changer de job, qui ne veulent pas faire la même chose tout le temps. On voit bien ces fameux slasheurs. Eh bien, on a imaginé un
pool de ressources. Vous les voyez aussi chez vous, dans une entreprise aussi traditionnelle, si je puis dire?
Bien entendu. Et on se doit aujourd'hui en entreprise de devoir répondre à ces attentes-là au sein de l'entreprise. Et typiquement, on a imaginé un pôle ressources, mais du fait, bien sûr, de pouvoir remplacer des personnes qui vont en congé, en attente de recrutement, eh bien, on a des personnes qui sont volontaires, qui veulent faire un site, 3 jours, 1 semaine, 2 mois, 3 mois max, parce qu'il faut aussi leur apporter cette dynamique. Ils sont volontaires pour cela. Et ce qui se passe, c'est que ça leur permet de voir différentes activités, différents segments, différents territoires, et ils choisissent à un moment donné d'intégrer un site. Et typiquement, là, j'ai appris qu'on a 3 salariés au 1er novembre, enfin au 2 novembre, qui veulent s'installer dans un site avec une promotion. C'est-à-dire qu'un qui va être manager, on en a un qui va être chef gérant. Et je trouve ça comme vraiment exceptionnel, puisque à la base, c'était je veux faire de la mobilité, je veux bouger, je veux diversifier mon job. Et à un moment donné, je veux me poser. Et bien, Sodexo, on est en capacité de pouvoir le proposer.
On me disait, Sodexo, c'est un très gros employeur sur l'ensemble du territoire. Est-ce que néanmoins, vous identifiez des endroits de la carte de France où c'est compliqué? Compliqué à T0 et ça risque de continuer à être compliqué, je pense, au centre-ville peut-être de villes moyennes ou des périphéries de grandes villes où vous avez du mal à staffer, vous avez du mal à recruter.
Mais écoutez, on est vraiment sur l'Île-de-France où c'est là où nous avons le plus de postes à pourvoir. Mais on se rend compte aussi dans les petites villes, dans les endroits très reculés, sur des petits sites en province, effectivement, C'est plus compliqué quand on n'est pas motorisé. Donc on doit aussi être créatif de notre côté. Vous m'avez parlé de dispositifs. Eh bien, on travaille pour regarder les rapprochements domicile-lieu-travail. Voilà, comment on peut recruter par rapport à la situation.
Changer le logiciel.
Ouais. Voilà, on se doit de faire ça parce qu'effectivement, on a ces problématiques d'éloignement. Donc il y a des problématiques auxquelles on doit faire face. Et donc on essaie de répondre en faisant appel à notre imagination, à la créativité de chacun et chacune.
Majda, un mot parce que notre prochaine invitée va nous aider à zoomer sur les plus que 45 ans. Comment on rebondit quand on quitte par choix ou pas par choix son job à 45 ans? Est-ce que chez Sodexo, quand on a 45 ans, on est encore utile et utilisé?
Non seulement on est encore utile et utilisé, on recrute, quel que soit l'âge, le genre, enfin toutes les dimensions de la diversité, je peux vous le dire, puisque aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 46 ans, pas loin de 46 ans chez Sodexo, plus de 12 ans d'ancienneté. Donc oui, rejoignez-nous, quel que soit votre âge et quel que soit votre lieu géographique. Et donc, venez à notre rencontre le 8 octobre.
Et à l'inverse, pour les plus jeunes, pour qui Sodexo, c'est, on le disait un peu tout à l'heure, les mots-clés associés à votre entreprise qui date quand même de 1966.
C'est ça.
Comment on attire, comment on construit une marque employeur spécifique pour les plus jeunes?
Eh bien déjà, on a un programme d'apprentissage, donc on les prend très tôt. On a des CAP, on a un CFA aussi des chefs. Donc on a des jeunes, très jeunes, à qui voilà, on leur permet d'avoir cette première expérience et ils peuvent se développer, certains restent, d'autres partent parce qu'ils veulent diversifier leur expérience, leur CV et reviennent aussi. Donc voilà, nous on commence très jeune chez Sodexo et on peut continuer sa carrière et on a de belles histoires justement pour pouvoir illustrer ces propos.
Voilà, 30 000 salariés en France. Merci beaucoup, Majda Vincent. Vous êtes la DRH de Sodexo France. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à prendre le pouls de votre entreprise et de votre secteur pour démarrer cette émission. À bientôt.
Merci, Lorraine.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
On est Better Together avec un spécialiste de la transition et en plus un auteur. Il s'agit de Benoît Durand-Tisnes. Bonjour Benoît.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. On va parler de comment rebondir professionnellement après 45 ans. Alors tous les plus de 45 ans qui nous écoutent et qui nous regardent vont nous détester, mais on va être obligé de donner une définition de cet âge. On est vieux à partir de 45 ans, selon l'INSEE.
Oh, je crois que c'est une définition effectivement de l'INSEE qui est assez mathématique pour donner un cadre. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce, aujourd'hui, on constate qu'il y a une obsolescence programmée des gens qui passent seniors après 45 ans. Voilà, moi ça fait 7 ans que je suis passé, je n'ai pas l'impression d'avoir changé.
Alors ceux qui feront le calcul dans la télé pourront connaître votre âge. Très sérieusement, vous publiez un livre, je vais vous faire un peu de promo, qui s'appelle « Savoir rebondir après 45 ans », parce que dans le contexte culturel, économique en France, visiblement 45 ans, c'est un cap. C'est un cap quand on se fait virer ou qu'on quitte sa boîte. Pourquoi psychologiquement c'est un cap selon vous?
Et je crois qu'en fait aujourd'hui c'est un cap, mais c'est surtout un fait malheureusement. C'est-à-dire que faut considérer aujourd'hui qu'après 45 ans, ça va nous arriver. Il y a 15 ans, quand malheureusement on quittait son entreprise, et souvent à l'initiative de l'entreprise, il y avait un problème, on va dire, avec sa valeur. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, mais il faut s'habituer et se préparer à changer de travail, parfois malgré soi.
Alors, ce constat, qui est plutôt rassurant, c'est que dans la France d'aujourd'hui, se faire virer, passer 45 ans, c'est plus un échec.
Non, c'est plus un échec, ça peut même être une très belle opportunité si on sait s'y préparer. Je crois que le fondamental, c'est de se préparer.
Alors, expliquez-nous pourquoi, du point de vue de l'entreprise, c'est pas un échec de séparer de quelqu'un qui est senior dans un contexte de tension de recrutement. Comment aujourd'hui on peut se dire que c'est pas un problème ou un signal négatif?
Je pense que du point de vue de chacun, c'est plutôt que ça va nous arriver et que il faut
pragmatisme, quoi.
Ouais, pragmatisme, c'est ça.
Alors, bon, je vais vous demander évidemment quelques-uns de vos conseils. Une des leçons de votre livre, c'est qu'il s'agit de se préparer au long cours. Tout au long de sa carrière, il faut se préparer à ce moment ou à ces moments qui vont arriver, moment où on se fait dégager ou on dégage. Alors, quels sont quelques-uns de vos conseils?
Ce qu'on constate surtout, c'est que moi, je vois tous les jours, je rencontre des managers et des dirigeants. Ouais, typiquement, ils arrivent devant moi et ils disent « Bon, maintenant que j'ai un peu de temps, je vais réactiver mon réseau. »
Ça, c'est l'erreur numéro un.
Déjà, un réseau, ça se décrète pas. Un réseau, si on en parle, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut en permanence rencontrer du monde, faire l'action de générosité, surtout pas raisonner en intérêt. Et puis, un peu dans la volumétrie, ça revient, forcément, mathématiquement, mais on peut pas le décréter.
C'est-à-dire que ça se travaille au quotidien, qu'on sente qu'on va partir ou pas.
Je pense que c'est une posture. Je pense que naturellement, faut aider les autres, faut être généreux. Et au fond, ceux qui y arrivent bien, c'est ceux qui font sans intérêt et positivement.
Alors pour ceux qui sont très très loin d'avoir un réseau activé, quel est la première démarche à faire pour commencer ce réseau ou se remettre dedans?
Déculpabiliser, passer ses courbes de deuil et puis se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre l'habitude régulièrement. Vous savez, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, disait de la même manière que l'entreprise industrielle investit 5% de son chiffre d'affaires en R&D pour pas perdre son avantage. Nous, en cadre supérieur, dirigeant, manager, on doit investir 5% de notre temps pour rencontrer du monde. Et pas forcément tactiquement, avec intérêt, mais dans n'importe quel. Et puis, il y a des choses qui se passent.
5% à investir, 5% de son temps à investir dans le temps.
C'est un déjeuner, c'est une heure ou deux dans la semaine, mais ça change la vie.
Bon, un autre de vos conseils importants, c'est la maîtrise de certains outils qui, il y a 15-20 ans, n'existaient pas et qui, aujourd'hui, font partie du quotidien de toutes les boîtes. Décrivez-nous quelques-uns de ces outils auxquels vous pensez.
Alors, je pense que dans la typologie de personnes dont on parle, c'est-à-dire moi-même, c'est plutôt orienté, et professionnellement, c'est plutôt LinkedIn. Voilà. LinkedIn, c'est un outil où on interagit, où on trouve du travail, où on connecte avec du réseau, mais rien ne remplace le fait de rencontrer physiquement. Donc LinkedIn doit être juste un outil pour faire des rencontres.
Mais Benoît, on fait quoi sur LinkedIn? On like et puis c'est tout? On lit, c'est tout? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, beaucoup like et croient qu'ils font du réseau. Je pense que LinkedIn, c'est une opportunité de connecter avec quelqu'un pour le rencontrer et discuter d'autres choses en réel, en physique, en présentiel, comme on dit pendant le Covid.
Alors le retour au présentiel, c'est aussi le retour de la cohabitation entre plusieurs générations. On oppose beaucoup dans les médias et puis dans les discussions un peu mainstream, les jeunes et les moins jeunes, les boomers et les millennials. Alors, est-ce qu'on peut casser la nuque à certains préjugés concernant la relation entre boomers et non-boomers?
Bon, écoutez, moi j'ai deux filles de 17 et 19 à la maison. J'ai pas l'impression d'être décalé. Peut-être elles l'ont plus. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai plus le droit de dire à la maison. Néanmoins, je pense que c'est en permanence, en restant connecté, que voilà. Et puis il faut savoir rester à sa place. On n'apporte pas la même chose quand on est manager ou dirigeant de plus de 45 ans. On a l'expérience, on a la résilience, qui sont peut-être pas des éléments qui sont aussi prononcés chez des jeunes entre 20 et 40 ans.
Je vais vous remonter un commentaire d'une auditrice qui m'a écrit sur LinkedIn, qui s'appelle Alexis et qui me dit « Trouver un job à 55 ans, c'est impossible. Il faut obliger les entreprises à recruter, sinon il faut mettre des amendes, c'est la seule solution. » Alors elle nous parle de 55 ans, vous nous parlez de 45 ans. 45 ans, 55 ans, même combat ou il y a des choses qui changent quand il s'agit de rebondir?
Non, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui changent, même à 20 ans, c'est la même chose. Je crois que cette auditrice, ce qu'elle veut exprimer, c'est que c'est difficile pour elle. Je dirais qu'elle m'appelle, je lui offre le livre et puis je ferai plaisir à échanger avec elle.
Je vais quand même préciser que vous êtes à la tête d'un cabinet de transition. Et donc pour conclure cette interview, Benoît, est-ce que quelque part votre job il n'est pas caduc? Parce que quelque part on est tous tout le temps en transition. Qu'est-ce qui a changé depuis le moment où vous avez monté le cabinet et aujourd'hui?
Mais moi je pense aujourd'hui que cette activité de management de transition va encore prendre de l'importance et du développement parce que l'emploi en France est fondamentalement le CDI. Maintenant, c'est une opportunité qui se développe dans la tête des gens et puis en vrai aussi. Maintenant, le management en transition est en train de se développer. Ça correspond aussi à une façon d'être. J'ai envie de faire une mission, j'ai envie de m'affranchir du côté politique, j'ai envie d'apporter une vraie valeur à l'entreprise avec mon expérience. Et d'ailleurs, si on regarde dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Donc il y a de belles années devant nous et c'est une nouvelle façon de travailler.
On va parler tech avec notre prochaine invitée. On va zoomer sur les hauts potentiels tech. Est-ce que justement l'adjectif tech, il est
est de plus en plus commun dans vos clients, dans ces managers de transition?
À partir du moment où l'outil technologique, l'informatique, le digital est central, aujourd'hui c'est incontournable et il faut y être sensible. Maintenant, on parle de dirigeants, l'important c'est de mettre en œuvre les projets.
Voilà. Merci beaucoup, Benoît Durand, Tinès. Je rappelle que vous avez, Tinès, vous avez publié ce livre, Rebondir après 45 ans. J'ai pas 45 ans, mais j'ai appris pas mal de trucs dedans. Je recommande cette
Et
livre.
Je vous l'offre.
Merci beaucoup, suivez-nous. On arrive tout de suite, on va parler de la tech.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On va zoomer sur les métiers de la tech. Et pour ce faire, c'est Caroline Payou qui est avec nous. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice d'Ignition Programme. Pour ceux qui ne connaissent pas votre structure, depuis 2013, vous aidez les startups à recruter les perles rares à tout niveau de seniorité. Et on est avec vous aujourd'hui pour parler de ces talents tech qui sont particulièrement chassés en ce moment, sursollicités. Alors, est-ce que vous êtes toujours d'accord que septembre-octobre 2022, on est toujours dans une logique de sursollicitation de ces talents tech ?
Il y a une sursollicitation depuis plus de 10 ans. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite, même si ça va un petit peu se desserrer.
Qu'est-ce qu'on entend par talent tech ? Comment on peut expliquer à des gens qui ne sont pas dans la tech, qu'est-ce que ça veut dire, de qui on parle quand on parle de ces talents à profil technologique ?
Alors, il y a deux types de profils. Il y a les profils dit à expertise tech, donc ceux qui sont développeurs, product, ingénieurs architecture, enfin bon, il y a pléthore de métiers autour de ça. Et puis il y a les métiers qui sont nécessaires dans les start-up tech ou dans les industries de la tech. Et là, il y a besoin aussi de beaucoup de commerciaux, de marketeurs. Donc il n'y a pas que des ingénieurs dans cet environnement-là.
Des gens différemment techniques.
Différemment techniques, tout à fait.
La pénurie, la sursollicitation, vous l'observez sur les deux typologies que vous venez de nous décrire.
Tout à fait.
Et disons que pour que les start-up et les autres entreprises arrivent à fonctionner, qu'est-ce qui est le plus grave ? Le fait qu'on n'ait pas de profils techniques, ingénieurs qui sont longs à former ou qu'on manque à T0 de commerciaux, de profils market, de profils produits. Qu'est-ce qui est le plus dur, si je peux
le
dire
plus grave, alors attendez, vous pouvez me la refaire, entre avoir pas les avoir au démarrage.
La pénurie, elle est plus grave pour les entreprises côté tech pure ou côté profils commerciaux, marketing?
Non, alors de ce point de vue-là, les profils tech sont les plus difficiles à trouver parce qu'ils sont les plus experts. Et donc, ça demande de la formation que tout le monde n'est pas allé chercher. En revanche, ce que disait le dernier baromètre EY, c'est que la majorité des entreprises, des startups tech, disent que les métiers les plus importants pour elles, ça va être plutôt les commerciaux, les plus stratégiques. Maintenant, c'est un peu moins difficile à trouver, mais ça reste très très difficile, ça reste très tendu sur le marché des commerciaux. Et du coup, ça donne des salaires un peu élevés qui ont franchement augmenté sur la dernière année où la tension est devenue très très forte.
Alors, avec Ignition Programme, vous êtes bien placé justement pour sentir cette tension. Si on zoome sur ces hauts potentiels technologiques, on va les appeler comme ça, est-ce que vous pourriez nous faire le portrait robot de l'entreprise idéale qu'ils ont envie de rejoindre, qu'ils ou elles ont envie de rejoindre ?
En fait, ce qu'ils vont chercher, alors c'est différent selon qu'on a des juniors, des jeunes tech qui sortent de leur formation et des gens un peu plus expérimentés. Les plus jeunes vont d'abord rechercher de la compétence, de l'apprentissage. C'est des métiers donc d'experts. Ce que les entreprises mesurent mal, c'est la nécessité d'accompagner ces formations dans la durée, de créer des opportunités de poste et de créer des perspectives. Donc les jeunes, ils veulent des perspectives de compétences. Les plus expérimentés, eux, veulent de l'impact, du sens, mais aussi des perspectives. Et là, de nouveau, alors moi, ce que je lis, c'est que du coup, il y a deux grands enjeux. Un grand enjeu de formation, et vous disiez tout à l'heure qu'on est sur le recrutement, mais en réalité, on est aussi beaucoup sur la formation. Et je vois la nécessité d'aller de plus en plus sur des structures de formation où on emmène les candidats et les salariés dans un chemin de carrière que l'on accompagne pour que les gens puissent bouger en interne. Et évoluer. Donc ça, c'est vrai pour les jeunes comme pour les plus expérimentés. Et le deuxième pan, c'est le sens, l'impact. D'après une étude Monster, 41% des candidats recherchent même ça avant le salaire. Donc la question du salaire, elle est importante, mais elle n'est pas cruciale en France. C'est un peu spécifique à la France, nous sommes de grands idéalistes.
Alors Caroline, un mot de salaire pour conclure et un conseil pour les plus petites structures qui nous écoutent. Quand on n'est pas une licorne et qu'on doit recruter, je vous dis n'importe quoi, un lead dev ou un commercial senior, comment on fait? Comment on se vend? Vous avez 30 secondes pour me répondre.
Moi, c'est un sujet qui m'est cher parce que nous, on n'est pas financé par des fonds. Et j'ai même créé un club d'entrepreneurs rentables qui ne cherche pas de financement, qui ne permettent pas d'aller chercher les mêmes salaires que ceux qui ont des levées de fonds de licorne. Comment on fait? On propose justement un projet qui a du sens. Pour ça, il faut se recentrer sur l'impact, l'utilité qu'une entreprise veut avoir. Ça demande parfois de l'accompagnement. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, accompagner des entreprises pour chercher quelle est leur raison d'être, quel est l'impact qu'ils proposent à chacun de leurs salariés et quelles sont les perspectives individuelles de progression qu'ils vont proposer à chacune de ces personnes dans ce contexte pour qu'ils se sentent utiles. Je veux dire, on a tous envie de se sentir utile dans une boîte. On n'a pas du tout envie de se sentir un pion au milieu de 1000 autres collaborateurs, et la course à la croissance de ces dernières années a un petit peu créé ça, c'est-à-dire on gaspille un petit peu et l'argent et parfois les gens, et ça c'est vraiment devenu insupportable. Les candidats le savent et ils cherchent l'inverse.
Voilà, ce sera le mot de la fin, un petit peu plus d'économie, un peu plus de parcimonie dans la gestion et de l'argent et des gens pour mieux les rendre heureux et mieux les solliciter. Merci beaucoup Caroline Payou, cofondatrice d'Ignition Programme, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. On a, j'espère, répondu à quelques-uns des sujets qui vous touchent au quotidien. Vous pouvez nous écrire pour nous soumettre vos problèmes et puis vos idées, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Vous allez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre plateforme. Il y a un petit QR code pour ceux qui nous regardent. Vous pouvez essayer, il fonctionne. À très bientôt. Merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.